Leurs invités partis, quand ils eurent entendu la porte de la rue se fermer, Fred et Guiret se regardèrent en silence. La fièvre qui les avait soutenus jusqu'ici tomba, leur maintien perdit toute rigueur. Leurs visages apparurent terreux, leurs épaules lasses, et ils se contemplèrent comme des gens qu'une même pensée travaille et qui n'osent la formuler. Le froid de l'atelier en désordre, et que ce désordre même faisait paraître plus vide, plus sonore et plus grand après l'agitation de la nuit, ajoutait à leur trouble. Comme s'ils avaient voulu que ce qu'il leur fallait dire maintenant ne fût entendu que d'eux seuls, se perdit contre les murs, s'évanouit dans l'ombre, ils éteignirent trois des quatre lampes, tirèrent le store devant la baie vitrée où le jour hésitait encore à entrer, et fermèrent les portes. Guiret, qui était l'aîné, parla le premier. Il le fit en termes rudes, sans gestes, en homme dont le parti est pris et qui n'a plus rien ni personne à ménager. « Fred, mon petit, nous sommes fichus. » Fred accueillit la phrase sans sourciller, fit quelques pas de long en large et répéta « Nous sommes fichus. » L'aveu était lâché, il s'agissait maintenant d'en mesurer les conséquences. Elles apparaissaient si claires à Guiret qu'il n'éprouva pas le besoin de les formuler autrement que d'un geste. Et ce geste était d'une terrible éloquence. Il leva le poing jusqu'à sa tempe, ferma son index plié en crochet et dit « Voilà !» Fred s'était assis. Vit-il le simulacre trop éloquent de son ami? Le devina-t-il? Il se tut et, le front entre les mains, demeura pensif. Il appuyait ses coudes sur ses genoux, ses pieds se soulevaient dans ses escarpins. À part cela, son immobilité était parfaite, comme son silence. Guiret prit l'un et l'autre pour un assentiment et conclut « Oui, mon petit, voilà. » Ensuite, il se versa un grand verre d'eau, l'avala d'un trait, puis ses doigts coururent parmi les papiers épars sur une table et les soulevèrent d'un geste machinal. Le visage toujours abrité derrière ses paumes, Fred parla. « Es-tu sûr que nous soyons à ce point finis ?» Guiret se redressa avec surprise, presque avec colère. « Ah ça, qu'est-ce qu'il te faut, mon garçon ? Tu as donc tout perdu ? Tout ?» Guiret enfonça les mains dans ses poches. « D'où sors-tu ? Je vais donc refaire à ton intention le bilan de la partie. C'est exactement celui de nos ressources. » En caisse, à 8 heures du soir, 3 000 francs. À cette heure-ci, zéro. La balance ne nous déchirera pas les méninges. Aussi, tu as joué comme un fou, jeta Fred en se levant. Son ami lui empoigna le bras. Des reproches ? Mais, mon bonhomme, pourquoi tu n'as pas joué, toi, qui te crois plus fort que les autres ? Fred objecta timidement. J'ai joué pendant 1 heure. Et je ne perdais pas, ou fort peu. Que n'as-tu continué, puisque tu partais si bien ? Là des veines venaient, j'ai cru que tu serais plus heureux. Allons donc, tu as eu le trac, avoue-le. Quel trac ? D'employer ton fameux procédé, celui dont tu garantissais la réussite certaine. J'ai manqué d'audace au dernier moment. À la bonne heure, tu en conviens, et c'est utile. Car enfin, de nous deux, qui a proposé cette partie comme suprême recours contre le désastre ? Est-ce moi ? Est-ce toi ? C'est moi, prononça Fred très bas. Oh, dit Guiret, tu peux parler haut, je ne t'en veux pas, je ne te reproche rien, je suis beau joueur, et l'estomac ne m'a jamais fait défaut. Qui perd, paye, je ne connais que ça. Rien ne sert d'ergoter, de rejeter les responsabilités, de s'abreuver de colère rétrospective. Ce qui est fait est fait. Je ne te dis pas que je ne préférerais pas qu'il en soit autrement, mais quand nous nous lamenterions comme des femmelettes, rien ne serait changé à rien. Le bal est fini, couchons-nous. » Et il répéta le geste de tout à l'heure, le poing collé contre la tempe. Déjà il se dirigeait vers le petit secrétaire et y prenait son revolver. Fred le retint. « Tu as raison, je suis prêt à t'obéir et à te suivre en cela comme en toute chose. Mais on peut bien réfléchir, essayer. Tu as 27 ans, j'en ai 24. » Ma foi, ricana Guiret, renversé dans un fauteuil. Ce voyage ne me tente pas plus que toi. Et si tu vois un moyen de l'éviter, à mon tour, je suis disposé à t'obéir. Donc, si tu le connais, n'hésite pas à m'en faire part. Je t'écoute avec passion. » Fred ne se méprit point au ton sarcastique de son ami. Ses idées étaient si vagues qu'il ne savait comment les formuler. Il tenta néanmoins d'engager le débat. « En gagnant du temps, nous avons connu déjà des moments très durs. Plus d'une fois nous avons désespéré, et puis, par un retour de chance, nous sommes retombés sur nos pieds. En ce temps-là, nous avions encore quelque chose derrière nous et pouvions espérer, même contre toute espérance. Mais la veine se lasse. Les prêteurs trop souvent tapés et jamais remboursés font la sourde oreille, et les portes vous claconnent. Si bien que je n'en vois plus qu'une qui ne refusera pas de s'ouvrir. Et celle-là... » je sais, balbutia Fred en passant la main sur son front. « Cependant, malgré tout, je cherche. On a bien le droit de chercher dans un tel moment. » »« Oh, ce droit-là, je te l'accorde volontiers, » sourit Guiret en allumant une cigarette. Après quoi, il tapota du doigt la boîte vide, la retourna en éparpillant la poussière de tabac qui restait au fond et ajouta « Quoique ceci soit à l'image de nos ressources. » C'est même dommage, car l'herbe à Nico vous procure un certain engourdissement, favorable aux décisions radicales. » Fred feignit de n'avoir pas entendu et poursuivit. « Nous avons encore quelques livres, ma trousse, des meubles. » Guiret haussa les épaules. « Tes bouquins, quand tu en auras tiré 10 francs sur les quais, tu pourras t'estimer bougrement fier. Ta trousse, 1 louis, et n'en parlons plus. Quant aux meubles, tableaux... tout ce qui avait quelque valeur a filé depuis longtemps. Ceci n'est pas une révélation pour toi, j'imagine. Ceux qui restent sont le gage de notre propriétaire, à qui nous devons, si j'ai bonne mémoire, 3 termes et un peu plus. Et les laisserait-il sortir, ce qui est douteux, un brocanteur ne nous en donnerait pas 50 francs. Additionne 10 et 20, 30, et 50, 80. De quoi vivre à 2, 48 heures. Estimes-tu qu'en 2 jours, la pluie d'or venue du ciel nous arrosera? Non, je pense. Alors, vivre 2 jours de plus, et après, en être exactement au point où nous en sommes, reprendre, après avoir espéré, une résolution aussi dure, repasser par les mêmes angoisses qui nous tenaillent depuis hier? Non. Si la perspective te tente, à ton aise. Pour moi, mon parti est pris. Je me considère comme déjà affranchi de la sale existence que nous traînons, et ne demanderai ni à Dieu ni au diable de me renouveler une valeur qui sera protestée à l'échéance. 2 jours de vie encore, et de quelle vie! En nous disant à chaque battement de cœur, 1 de moins. Non, non, tandis qu'au prix d'une petite miette de courage, même pas de courage, de décision, dans 1 seconde, nous serons tellement tranquilles. Ah, s'il s'agissait de 2 mois, 1 mois même! En 4 semaines, on a le temps de se retourner, de voir venir. » Fred venait de se dresser d'un bond. Guiret le regarda stupéfait. « Tu as le prêteur ? Hé, parbleu ! » Quoi qu'il en eût, Guiret ne put s'empêcher de tressaillir. « Nomme-le vite ! » !»« Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? Trésorier de la caisse de secours, tu as en banque près de 1 500 francs. Fais un chèque, nous rembourserons plus tard. Ce serait vraiment jouer de malheur qu'on les réclame du jour au lendemain. » Guiret eut un sourire lamentable. « Mon pauvre petit, je n'ai pas attendu ton conseil pour contracter cet emprunt, et les 1 500 francs ont filé tout à l'heure comme le reste. » Fred leva le poing. « Tu as fait ça ? » ?»« Mais oui, j'ai fait ça. » répondit Guiret avec calme. « Voleur !» Guiret le saisit par le revers du smoking. « Répète un peu, répète voir !» Puis il le repoussa comme une loque. « Ne nous reprochons pas nos indélicatesses et jugeons-nous sans coquetterie. Si je suis un voleur, vaux-tu mieux, toi qui précisément me reproches ce matin d'avoir fait ce que tu étais prêt à faire ? Ensuite, il se tut et baissa la tête. Au seuil de la mort, le spectacle de la déchéance le glaçait. Il avait dépouillé tout honneur, et cette pensée-là fut aussi douloureuse que celle de l'inévitable fin. Elle lui conféra une sorte de dignité dernière, de pitié d'aînée, de tendresse intraduisible, et, presque suppliant, mesurant peut-être la gravité des responsabilités encourues, et qu'il avait été un mauvais guide, un mauvais génie pour ce gamin, il essaya, à force de douceur, de conquérir son pardon. « Ne parlons plus, mon pauvre petit, gardons le peu de courage qui nous reste. Disons adieu sans trop de regrets ni de faiblesse à ce qui nous entoure. Quand il y eut faute double, la raison et la loi veulent que le plus âgé ait été le plus coupable. J'assume la plus grande part du remords devant toi et devant ce qu'il y a après nous, s'il y a quelque chose. Et je veux aussi me punir à ma manière. Le plus tôt affranchi et le plus heureux, tu partiras d'abord. Je te tirerai là, entre les deux yeux. Après, ce sera mon tour. Et ne crois surtout pas que je veuille te survivre. Je n'en ai nulle envie. Allez, mon bonhomme, embrassons-nous. » Par un attachement instinctif et cruel à la vie, ceux qui vont partir éprouvent, si ferme que soit leur résolution, le besoin de toucher des choses familières, de s'imprégner de ce qui les entoura, de se remplir les yeux de ce qu'ils ont tant vu et ne reverront plus. Il y a là comme une trêve que les plus décidés s'accordent, une dernière étape qu'ils franchissent avec lenteur, quelque chose de mystérieux et presque de puéril, qui ressemble au dernier coup d'œil que jette autour de soi un voyageur au moment de quitter sa maison. Fred s'assit sur le divan. Les coussins écrasés portaient encore la trace du corps de Chouchou. Son parfum imprégnait encore leur soie. C'était un reste de présence, le rappel d'une heure passée, un relent d'amour, de désir et d'angoisse aussi, car c'est assis à cette place qu'il avait suivi, les tempes moites, le cœur par instants comme bloqué, la partie sur laquelle se jouait sa vie ou sa mort. Guiret redoutait cette minute d'attendrissement. Si fort qu'il se jugea, il ne doutait pas que la faiblesse et la crainte exercent une redoutable contagion, et, pressé d'en finir, il ordonna « Allons !» La crosse du revolver s'était réchauffée sous ses doigts. L'arme ainsi près de lui faisait en quelque sorte corps avec son corps. Fred, couché, la tête cachée derrière son coude, gardait un coussin embrassé. L'appel de son ami l'arracha à son rêve. Il se redressa, mais comme il se levait, il poussa un cri et tendit quelque chose que sa main venait de rencontrer. « Qu'est-ce que tu as ? » demanda Guiret. Il dit très bas, abasourdi de sa découverte et des possibilités qu'elle représentait soudain. « Regarde !» Guiret prit le sac et murmura « Le sac de Chouchou !» Puis, le rejetant sur le divan, « On le trouvera avec le reste. Viens !» Fred avait ressaisi le bijou et demeurait immobile. Il le tenait, le soupesait, le fixait d'un regard abasourdi et répétait « Le sac de Chouchou !» « Il a l'air lourd !» risqua Guiret. « Oui, » dit Fred. « Des bijoux, probablement ?»« Probablement. » En même temps qu'il répondait, il l'ouvrit. Guiret se pencha sur son épaule. Il y avait là, entre les mailles d'or, une autre bourse plus petite, remplie de louis. « Donnez votre or pour la défense nationale !» ricana Guiret. Fred ne releva pas l'ironie d'une telle réflexion. Du bout des doigts, il inventoriait le contenu du sac où quelques bagues, un pendentif, un flacon de sel, un bâton de rouge à lèvres, un nécessaire d'or étaient mêlés à des billets de banque froissés. Guiret estima le tout d'un coup d'œil. « Une fortune !» Presque, confirma Fred, en la versant sur une table. Ensuite, il énuméra les bijoux. Sa grosse perle, son saphir, sa boîte ancienne. Autant d'objets familiers qu'elle maniait, ôtait et remettait avec ostentation, puis fourrait négligemment, pêle-mêle, avec l'apparent mépris que les filles affichent pour ce qui fut le prix d'un moment. Il les touchait sans émoi, mais quand sa main se posa sur les billets, il tressaillit. Cela était le signe de l'argent, ceci était l'argent lui-même. Il en avait la laideur matérielle et aussi la troublante beauté. « Passe un peu, » dit Guiret. Ils comptèrent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 000, totalisa Fred. « Ce que Marousse a gagné, mon argent, » prononça Guiret d'une voix sourde. C'était vrai pourtant. L'heure d'avant, tout ceci, ou presque, était à eux. Une espèce de rage contre eux-mêmes et contre le sort les envahit. Le revolver jeté sur une chaise n'attirait plus leur regard. Ils n'avaient Dieu que pour ce sac et la petite fortune qui venait d'en tomber, et leurs pensées, d'abord confuses, se clarifiaient. Bien qu'ils n'osassent encore rien s'en confier, ils hésitaient à revenir à la décision de tout à l'heure. En manière de transition, peut-être seulement pour gagner du temps, Fred proposa. Il faudrait le lui rendre. « Ma foi, » concéda Guiret. Puis, avec brusquerie, changeant de ton, « Dis donc, tu es bien, très bien avec Chouchou. » Fred se défendit par un reste de souci d'élégance. « Bien, il n'était pas mieux qu'un autre avec la jolie fille. Une simple camaraderie affectueuse, des plaisanteries qui ne tirent pas à conséquence. » Un flirt de pur amusement, rien de plus. Guiret haussa les épaules. « Mon vieux, ce n'est pas à moi qu'il faut compter ces balivernes. »« Je t'affirme, » murmura Fred. Guiret n'était pas d'humeur à se laisser prendre pour un sot. « Ah, Marousse, tant que tu voudras, mais pas à moi. Je vous ai vu durant toute la soirée, et du diable si vous aviez l'air de camarade. Vous étiez même d'une belle imprudence. » Et il faut que Marousse soit bête comme ses pieds pour ne pas s'en être aperçu. Des camarades qui s'embrassent à pleine bouche, se frôlent, se cherchent les mains et chuchotent de si près qu'on ne sait pas où finit la confidence et où commence le baiser. Allons donc! Du reste, la petite vaut un caprice. Elle est assez jolie pour cela. Fred sourit malgré lui à l'évocation de ces minutes aimables. Guiret compléta sa pensée. « Je dois reconnaître qu'elle paraissait plus emballée que toi, et que dans la circonstance, tu te laissais faire la cour. Tu le vois, rien ne m'échappe. Il n'en est que plus certain qu'elle a le béguin. Drôle de placement pour son cœur. » Fred demanda d'une voix cassante, « Où veux-tu en venir ?»«
Je ne sais pas, nous parlons. » »«
Tu ne parles pas en l'air d'habitude. » »«
D'habitude, non, mais quelquefois. »
De nouveau, il palpait l'argent et les bijoux. Guiret pensa tout haut. « Chouchou, si elle s'est aperçue de la perte, doit être bien ennuyée en ce moment. »«
Plutôt, » dit Fred.
« C'est elle où elle a oublié son sac. »«
Ah, voilà !» murmura Fred.
« Et si par hasard, elle ne s'en souvenait pas ?» Ils se turent. Cette fois, un raisonnement identique les conduisait à une résolution pareille. Mais on n'avoue pas d'un cœur léger certaines pensées, et leurs gestes parlèrent pour eux. Fred ramassa les bijoux et les billets. Un dernier scrupule l'arrêta. L'ébauche d'aventure que lui avait rappelé Guiret le retenait. Ce flirt qui, durant la soirée, l'avait excédé, parce que des soucis graves le tenaient en éveil, lui apparaissait soudain gentil et tendre. Chouchou cessait à ses yeux d'être une petite grue assez banale moralement pour prendre figure d'amoureuse, et répondant à sa pensée, il articula avec force « Non, oh non !» Guiret eut un sourire en coin et fouetta l'air d'un geste détaché. « Ma foi, disait le geste, à ton aise, pour ce que je tiens à la vie, moi, rien n'a d'importance. » Au petit bonheur. Dans la même seconde, un bruit de pas résonna, puis deux coups pressés furent frappés à la porte. Comme s'ils avaient été surpris dans l'accomplissement d'un mauvais coup, ils s'immobilisèrent. On frappa de nouveau.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Guiret, la voix mal assurée.
« Moi, chouchou !»
Ils se regardèrent. L'espace d'un éclair, leur vie et leur mort menaçantes passèrent devant leurs yeux. En face de ce retour inattendu, projets, scrupules, tout s'évanouit. Ils cessèrent d'être deux fils de famille résolus à en finir plutôt que d'encourir le déshonneur, pour n'être plus que deux hommes acculés qui entrevoient une lueur d'espoir. Et sans qu'ils eussent prononcé une parole, esquissé un mouvement, ils se trouvèrent d'accord sur la conduite à tenir. D'un geste nerveux, Fred ramassa le sac, ouvrit un tiroir et l'y poussa. Après quoi Guiret répondit de la voix la plus naturelle qu'il put.
« Comment, c'est vous, chouchou ?»«
Voilà, voilà, le temps d'enfiler mon veston, je suis à vous. »
Ceci s'était passé en une seconde. Guiret fit un signe à Fred. Fred se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Chouchou entra, le col de son manteau relevé jusqu'aux oreilles. Les mains retenant sa fourrure autour de son cou, aussi pimpante, aussi fraîche, aussi joyeuse, que si elle n'avait pas veillé toute la nuit, et elle s'écria « Me voilà !»
C'est une blonde aux grands yeux prometteurs, une de ces femmes dont le regard vous gorgise, qui semble dire « Je vous donne mon cœur, gardez-le bien de peur qu'il ne se brise, et lui croyant à ce divin poème, lui fit serment de l'adorer toujours. Elle dit moqueuse, es-tu sûre que je t'aime? Je mens si bien quand je parle de... »